Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous recevons Michel Kishka, caricaturiste belgo-israélien et auteur du récit autobiographique illustré « Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père ». Un récit qui raconte son vécu en tant que fils d'un survivant de la Shoah, donc deuxième génération de survivants, et qu'il est venu présenter à l'ONU le 11 avril dernier. Une date qui a d'ailleurs une forte teneur symbolique pour lui, Michel Kishka.
Oui, c'est une date symboliquement et historiquement très importante parce que le hasard a voulu que le 11 avril 1945, mon père, qui était pendant 3 ans dans des camps de concentration successifs en Allemagne, était à Buchenwald au moment de la libération du camp par l'armée américaine conduite par le général Patton. Et donc mon père a été libéré de Buchenwald, c'est le camp où était aussi Elie Wiesel et d'autres, le 11 avril 1945. Donc là, je me retrouve 73 ans après, à l'ONU, pour raconter l'histoire que je raconte dans un livre, qui est l'histoire de notre génération, celle du baby-boom de l'après-guerre, qui a vécu dans le non-dit des parents. Donc c'était très significatif pour moi d'être là aujourd'hui, très émouvant. Donc c'est vraiment miraculeux qu'il ait survécu, qu'il soit vivant aujourd'hui et qu'il puisse vivre un peu l'épopée de ce livre où je parle de lui, je parle de nous, ses enfants. C'est un peu incroyable que tout ça soit dans un même moment.
Votre message, justement, en tant que deuxième génération, porte sur le non-dit, sur le poids du silence par rapport à la Shoah au sein de votre famille. Est-ce que vous pouvez partager avec nous, nous dire comment c'était de grandir dans une famille avec un père qui avait survécu ?
Écoutez, je vais vous le dire, mais je vous dis, j'avais un ami dans la salle qui est de ma génération et qui, au moment de partir, est venu me dire que, bon, lui, son histoire, c'est que sa mère n'a pas arrêté de parler. Et on est arrivé à la conclusion que ça fait les mêmes dégâts. C'est-à-dire que la parole, quand on est petit et qu'on a une mère, un père, qui raconte son trauma dans le détail à un enfant qui n'est pas encore en âge de l'entendre, peut-être pas avec les bons mots, et c'est un leitmotiv qui a tout le temps été là, ou alors le silence, finalement, ça fait les mêmes dégâts. On ne se développe pas de façon harmonieuse comme enfant quand on sait qu'il y a un secret de famille intouchable auquel on ne peut pas toucher, on ne connaît pas son passé, on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas pourquoi on est. Parce que mon père nous a fait, parce qu'il voulait remplacer sa famille exterminée. C'est pas qu'il voulait des enfants pour le plaisir de faire des enfants, il avait un but. C'était que le nom Kishka ne s'efface pas de la surface de la terre. Parce que ça s'est presque passé. S'il n'avait pas survécu, c'est ce qui se serait passé. Maintenant, comment ça a été pour moi comme gosse? Vous savez, enfant, je ne me posais pas de questions. J'étais vraiment un enfant heureux. J'étais heureux et j'étais aimé. J'étais aimé par mes parents. Parce que j'étais bon en classe, j'étais blagueur, j'étais mignon, j'étais poli, j'étais tout ce qu'on attendait de moi. J'ai compris intuitivement une chose, c'est qu'il fallait que je fasse plaisir à mes parents et que je les rende heureux parce qu'ils avaient souffert. Donc je savais qu'il ne fallait pas que je les fasse souffrir. Donc d'un côté, je suis toujours parvenu à avoir des bonnes notes, sauf j'ai eu une année de crise vers les 15 ans. Mais là, j'ai trouvé des solutions. J'ai imité la signature de mon père sur mes mauvaises notes pour ne pas qu'il les voie. Quand on s'est dessiné, on s'est imité.
Voilà. Hein.
Mais je lui ai dit qu'il n'y a pas longtemps, hein, il ne l'a jamais su. Et d'un autre côté, c'est comme si j'avais un peu marché sur des œufs autour de mes parents. Je voulais savoir, mais je n'osais pas poser de questions.
Que saviez-vous ?
Rien. Rien, vous savez, je savais. Mon père, il y avait une phrase qui revenait tout le temps. C'est qu'il a passé 3 ans dans les camps, qu'il a perdu toute sa famille. Voilà, ça c'est ce que je savais. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était les camps, qu'est-ce que c'était la théorie développée dans Mein Kampf par Hitler, le programme d'extermination des Juifs d'Europe, la solution finale décidée à Wannsee. On n'apprenait pas ça à l'école. Je n'avais pas ça dans mes livres d'histoire. Ou alors, quand on parlait de la Seconde Guerre mondiale, il y avait raison, conséquence. Il n'y avait pas le mot juif dans les livres. La Shoah, ce n'était pas un sujet développé dans les manuels de mon époque. Donc, je ne savais rien. Je ne savais rien. Et je savais qu'il avait un numéro sur le bras, qu'on tatouait les prisonniers, mais je n'avais jamais osé regarder les chiffres qu'il avait. Je ne savais pas quels étaient ces chiffres. Et ce n'est que quand j'avais environ 40 ans, j'étais à Jérusalem et j'ai voulu faire un dessin où je dessinais mon père avec son numéro. Je lui ai téléphoné. Je lui ai dit, papa, ça va? Oui, et toi? Oui, très bien, pourquoi tu m'appelles? Je lui ai dit, papa, c'est quoi ton numéro? Il m'a dit, 1-7-7-7-8-9, pourquoi? Il m'a dit, justement, je fais un dessin avec ton numéro et tu ne me l'as jamais dit. Et voilà, et donc, d'un côté, il y avait ce non-dit, mais il y avait, je pourrais décrire ça comme s'il y avait des fantômes dans la maison. Et les fantômes, c'était sa famille disparue, dont il ne pouvait pas parler. Mais vous savez, ce que j'ai appris avec les années, avec l'expérience, c'est que ça se passait comme ça dans toutes les familles des survivants. Dans toutes les familles des survivants, les parents, il fallait trouver des mots pour parler à un enfant. Comment voulez-vous raconter l'Holocauste à un enfant?
Et surtout si vous avez vous-même témoigné et survécu.
Mon père a vu son père mourir dans ses bras, à la fin de la marche de la mort. Quand les Allemands ont commencé à évacuer les camps et à se réunir au centre de l'Allemagne, je dis les Allemands, c'est les nazis que je dois dire. Les Allemands, c'est autre chose. Les Allemands, c'est ceux d'aujourd'hui. À l'époque, c'était des nazis. Peut-être pas tous, mais majoritairement. Et il n'a pas survécu à la marche de la mort. Donc j'imagine le traumatisme que ça a été pour mon père. C'était pas possible de le dire. Je pense qu'il a dû parler qu'à ma mère. Quand ils étaient ensemble, en privé, je pense qu'il a dû avoir des cauchemars. Je pense qu'il a dû avoir des nuits où il se réveillait dans sa sueur, qu'il a dû appeler, crier le nom de ses parents. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais c'est ce qui s'est passé dans plein de familles. Il y a plein de gens de ma génération en Israël qui m'ont raconté qu'ils entendaient leurs parents hurler la nuit.
Vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'humour, de recours, de résilience. Mais ce n'était pas le cas de tous les membres de votre famille. L'impact a pu être différent.
Absolument. Vous savez, dans une famille, des parents sont persuadés qu'ils donnent le même amour à chacun, qu'ils élèvent chacun de la même façon. Mais finalement, chacun dans la constellation d'une famille a une place qui lui donne un rôle et qui agit sur sa destinée. Nous, on était quatre. Il y a eu ma grande sœur qui a été la sœur aînée à qui on a donné beaucoup, trop de responsabilités. S'occuper de nous quand on était petit, par exemple. Il y avait moi, qui était le premier garçon porteur du nom de famille, promesse de la continuation pour mon père. Mon père s'est énormément projeté en moi. Il y a eu ma petite sœur, mais peu de temps après, un an après, mon petit frère. Donc les deux derniers ont eu, je pense, au niveau de l'importance du projet de vie qu'avait mon père, ils ont eu une place différente. Ma mère avait déjà plus tellement la force de s'occuper d'enfants quand mon frère est né. Vous savez, ça se passe dans plein de familles. Mais ça, on ne s'en rend pas compte quand on est petit. On ne s'en rend pas compte. Mais je pense que pour se développer avec harmonie, et je pense que c'est ce qui a sauvé mon père, il faut avoir de l'amour au plus jeune âge. Et mon père, qui a été le fruit de l'amour de ses parents, a été un enfant aimé, et il était aimé de ses petites sœurs. Donc je pense que, bien qu'il ait été arrêté à 16 ans, c'était un jeune homme harmonieux, équilibré, et ça lui a donné la force, je pense. Cet amour lui a donné la force psychologique, mentale, de survivre, d'aller au bout de son projet de survie. Et quand on n'a pas ça, on a une base fragile. On est comme un grand gratte-ciel new-yorkais avec des fondations pas assez solides. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec mon petit frère, indéniablement. Et c'est lié à la Shoah et c'est lié à la famille. Et donc c'est ça que j'ai voulu un peu raconter dans le livre. J'ai un peu voulu raconter comment le non-dit a été un traumatisme, comment la parole libérée n'a pas été facile pour nous à gérer, parce que quand mon père a commencé à parler, il ne s'est plus arrêté. Ça fait 30 ans que mon père ne parle de rien que de la Shoah. Alors qu'avant, on pouvait parler de tas d'autres choses avec lui. De cinéma, de musique classique, de littérature. C'est un homme qui a beaucoup lu pour se former, pour compléter sa formation, vu qu'il n'était déjà plus à l'école à l'âge qu'avaient les lycéens dans la salle aujourd'hui. Donc tout ça, ce sont des choses qui ont pesé, qui se sont accumulées. Et pour moi, vraiment, ça me débordait. Ça m'a comme étouffé. Alors que j'avais la sensation que j'étais vraiment un enfant heureux, j'étais un adolescent heureux. Je menais ma vie, plus ou moins comme je l'entendais. Je contournais les interdits de mes parents sans qu'ils le sachent pour pouvoir avoir une vie normale d'adolescent. Mais dans ma génération, s'il y a un point qui caractérise tous ceux que je connais, on n'a pas eu notre révolte d'adolescence. On ne peut pas se révolter contre des parents qui ont souffert.
On se l'interdit.
On se l'interdit. Alors on le contient.
Par respect,
par peur de faire mal, parce qu'une révolte d'adolescence, ça doit se faire pour qu'après on se développe harmonieusement comme adulte. Et moi, ma crise d'adolescence, j'ai dû la faire à 30, 35 ans. Et je l'ai gardée pour moi. Je l'avais trop contenu. Et c'est pas bon, ça. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui caractérisent un peu cette génération. Et c'est vraiment en y réfléchissant et en commençant à écrire que les choses sont venues. D'un autre côté, je sentais bien que c'était un sujet terriblement délicat, où j'allais peut-être dire des choses déplaisantes vis-à-vis de mon père, qui, vu qu'il est le dernier survivant, ma mère étant décédée en 2001, je me disais, je peux pas faire ça à mon père. Je peux pas lui dire la vérité, ça va lui faire mal. Mais pendant que j'hésitais, en même temps, je mûrissais. Et finalement, quand à l'âge de 55 ans, je me suis mis à faire le livre, j'étais à une période de ma vie où je pouvais le faire. Où je pouvais le faire sans faire mal, sans avoir la sensation que je réglais un compte avec mon père. Ce n'était pas du tout ça le but du livre. Au contraire, c'était vraiment de lui prouver mon amour à travers la douleur.
Il l'a bien reçu.
Finalement, oui. Au début, ce n'était pas facile. Parce que bon, c'est une histoire qui était que la nôtre. On ne l'avait jamais racontée. Et mon père... Pour lui, c'était important d'avoir l'image de la réussite familiale, d'avoir fait une grande famille, d'avoir remplacé sa famille disparue, d'avoir fait plein de kishkas. Mais finalement, c'était une façade. Derrière cette façade, il y avait des problèmes familiaux, comme dans toutes les familles, mais il y avait la Shoah en plus. Et je pense que ce livre-là, il a permis aux choses d'être dites. et d'être dessiné dans un style un peu arrondi, un peu grotesque, qui est mon style, qui finalement a rendu ça très accessible à toutes sortes de publics. Vous savez, j'étais surpris de voir... Moi, quand j'ai fait ce livre, je pensais que je le destinais à les gens plus ou moins de ma génération. Je me disais, mes lecteurs, ils vont avoir entre 40 ans et 60 ans. Il y a des gosses qui ont lu mon livre. Et je n'avais pas du tout l'intention que les gosses lisent mon livre. Il y a des survivants de la première génération qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. C'était une énorme surprise pour moi de voir comme l'art de la bande dessinée a rendu accessible mon propos à des publics d'âge totalement différents. Ça, c'était vraiment une découverte.
Qu'est-ce qui vous a amené à devenir illustrateur, dessinateur? C'est un métier qui est à la fois, vous l'avez dit, ludique et sérieux.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous raconter votre moment de déclic?
J'ai un souvenir. Je vais grosso modo avoir 6 ans. J'étais seul à la maison avec mon père. Et il m'a pris sur les genoux. Il a pris une feuille, je ne savais pas que mon père dessinait. Et il m'a dessiné un nazi comique. Donc moi, il était derrière moi puisque j'étais sur ses genoux. Je ne voyais pas son visage. Je voyais sa main. Et je voyais, chaque fois qu'il ajoutait un petit détail, il lui a fait un nez en trompette. Le nez qui coule avec un rhume. Il lui a fait des dents de lapin qui dépassent. Il lui a fait un pot de chambre au lieu d'un casque. À chaque détail, j'éclatais de rire. Et je disais encore, encore. Et chaque fois, il ajoutait. Je pense que ça a été le moment de transmission le plus important de ma première enfance. Il y a quelque chose qui s'est ancré en moi, dans mon ADN, et qui m'a dit, c'est ça, dessiner, faire rire à partir de la douleur et rendre les gens heureux. Donc moi, je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que je ferai quand je serai grand? J'ai toujours su que ce serait ça. C'était clair, c'était facile, on peut dire.
Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, de dessiner intérieurement, vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte?
J'aime bien la question. En fait, je pense que quand je dessine, je me revois enfant, dessiné, heureux. J'étais toujours bon en classe. Je finissais mes devoirs le plus vite possible quand je rentrais à la maison. Je prenais le goûter, je montais dans ma chambre, je faisais mes devoirs pour libérer le plus de temps pour dessiner. Et quand je dessinais, le monde n'existait plus. J'étais tout seul avec mes petits héros, mes petits personnages, et j'étais heureux. Et je pense que chaque fois, je retrouve cette espèce de sentiment de bonheur d'avoir une page blanche sur laquelle il n'y a rien et de donner vie à quelque chose. Ça, ça m'apporte beaucoup de satisfaction.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé ou décidé de raconter l'histoire de partager par le dessin? Vous êtes belge, du pays du chocolat et des bandes dessinées.
Exact.
Mais pourquoi le dessin pour partager cette histoire?
C'est la chose que je fais le mieux. C'est ce que je sais faire, c'est mon métier. C'est mettre des histoires en images. C'est raconter des choses parfois très complexes, d'une façon un peu déjantée, un peu détournée, un peu décalée, en y mettant un peu d'humour, en y mettant parfois un peu de cynisme aussi. Je ne suis pas du tout un être cynique, mais des fois, il faut user de son cynisme un peu. Et j'avais besoin de le faire. J'avais tout simplement besoin de le faire pour moi-même. Et j'avais besoin de le faire parce que je sentais que je ne racontais pas uniquement ma propre histoire. J'avais l'impression vraiment que j'allais raconter une histoire où toute une génération allait se reconnaître. Et c'est ce qui s'est passé. Et il y a même des gens, des survivantes du génocide du Rwanda, 3 femmes, qui se sont reconnues dans mon histoire. Elles ne sont pas juives. Leur famille n'a pas vécu la Shoah, mais il y a eu le génocide Hutu-Tutsi au Rwanda. Et elles sont venues partager leur émotion avec moi après et m'ont demandé des conseils, quoi dire à leurs enfants. J'ai dit, vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste. Moi je ne suis spécialiste que de ma propre histoire. Mais je peux vous dire une chose, ne pas dire, c'est comme mentir. Et une m'avait dit qu'elle avait une fille de 6 ans et une de 8 ans. J'ai dit qu'on peut dire avec des mots simples, papa et maman ont beaucoup souffert. Et puis quand elles posent des questions, quand elles ont 12 ans, 14 ans, 15 ans, on peut raconter un peu plus. On ne peut pas tout leur jeter au visage en une fois. On ne peut pas les obliger à écouter si elles ne posent pas de questions, mais on ne peut pas non plus se taire. Elles m'ont remercié, je ne sais pas ce qu'elles ont fait avec ça, je ne sais même pas si j'ai raison, mais c'est mon vécu. Moi, ce livre, pour moi, il a vraiment été une trajectoire de résilience. C'est en faisant le livre que j'ai réalisé à quel point il fallait que je dise ces choses, à quel point il fallait que je m'en déleste. Et c'est chaque fois une pierre en moins qui pesait sur mon estomac, qui pesait sur mon cœur. Et chaque pierre comme ça que j'ai sortie, c'est devenu du coton qui s'envolait comme ça. Ça m'a fait du bien. C'est pour ça que la dernière image du livre, c'est moi en train de voler au-dessus de mon dessin. Tellement que ça m'a soulagé.
Et c'est ainsi que se referme notre magazine Escale avec Michel Kishka. Rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même fréquence.